Le titre du message, c'est Jésus, l'auteur et le finisseur de notre foi. Donc si vous voulez, on va aller dans Hébreux chapitre 12 et on va lire les versets 1 à 2. Hébreux chapitre 12, versets 1 à 2. Qui nous dit, c'est pourquoi, voyant que nous aussi sommes environnés d'un si grand nuage de témoins, laissons de côté tout fardeau et le péché qui nous assiège si aisément et courons avec patience la course qui est placée devant nous. Regardant à Jésus, l'auteur et le finisseur de notre foi, qui pour la joie qui était placée devant lui, a enduré la croix, méprisant la honte et s'est assis à la main droite du trône de Dieu. Donc on va se focaliser ce soir sur le verset 2 qui nous dit « Regardant à Jésus, l'auteur et le finisseur de notre foi ». Donc qu'est-ce que ça signifie que Jésus est l'auteur de notre foi, mais qu'il est aussi le finisseur de notre foi? Et ça veut dire que Jésus, il est l'origine de notre foi, mais il est aussi la fin de notre foi. Et d'ailleurs, en Apocalypse chapitre 1, verset 8, je vais simplement le lire. Jésus nous dit, Apocalypse chapitre 1, verset 8, il nous dit « Je suis Alpha et Oméga, le commencement et la fin, dit le Seigneur, qui est et qui était et qui est à venir, le Tout-Puissant. » Donc on voit que Jésus, il est le commencement et la fin. Donc c'est pas le même contexte, mais simplement pour montrer que Jésus, c'est le commencement et la fin. Et Hébreux chapitre 12, Dieu nous dit que Jésus, c'est l'auteur et le finisseur de notre foi. Donc on va analyser en détail ce que ça signifie que le fait que Jésus est l'auteur et le finisseur de notre foi. Donc déjà, il faut savoir, comme le dit Romains chapitre 5, verset 1, si vous voulez aller à Romains chapitre 5, verset 1, qui est un verset assez célèbre, qui nous parle du salut. Romains chapitre 5, verset 1 nous dit « Par conséquent, étant justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par le moyen de notre Seigneur Jésus-Christ. » Donc qui nous montre qu'on est justifié par la foi. Et c'est ça qui nous amène la paix avec Dieu par Jésus-Christ. Donc, Hébreux chapitre 12, quand il nous dit que c'est Jésus est l'auteur et le finisseur de notre foi, ça parle à des personnes qui sont déjà sauvées. Et comment ces personnes sont sauvées? Elles sont justifiées par la foi. Et c'est ce qui nous permet d'être en paix avec Dieu, donc avec Dieu le Père, mais avec Dieu le Trinitaire, par le Seigneur Jésus-Christ. Parce que c'est en mettant notre foi en Jésus-Christ qu'on a la paix avec Dieu. Donc quand on parle du fait que Jésus est l'auteur et finisseur de notre foi, et quand on lit Hébreux chapitre 12, versets 1 et 2, ça parle à des personnes déjà sauvées. C'est pour ça que Dieu nous dit d'ailleurs de courir la course, c'est parce que c'est des personnes qui sont déjà sauvées. Maintenant, on va analyser en trois parties ce passage, donc le fait que Jésus c'est l'auteur et le finisseur de notre foi. Le premier point, c'est que Jésus c'est l'auteur de notre foi. Le deuxième point, c'est que Jésus c'est le finisseur de notre foi. Et le troisième point qu'on va étudier, c'est le fait qu'un chrétien qui croit en Jésus-Christ ne va jamais arrêter de croire en lui. C'est impossible pour qu'une personne sauvée d'arrêter de croire en Jésus-Christ. Et ça, on va vraiment le voir en détail, parce que le salut est pour toujours. On ne peut pas perdre le salut. Ça veut dire qu'une fois que vous avez mis votre confiance en Jésus-Christ, vous n'arrêterez jamais de croire en lui. Et toutes les personnes qui croient qu'on peut perdre le salut, si une personne vous dit « moi, je crois qu'on peut perdre le salut », cette personne vous montre qu'elle n'est pas sauvée, qu'elle n'a pas mis sa confiance en Jésus-Christ, parce que le salut est le fait qu'on met notre confiance en Jésus-Christ. Donc si vous avez confiance en lui, vous savez que vous êtes sauvé pour l'éternité. Ça, c'est très important parce que beaucoup de gens disent qu'ils sont sauvés, mais qu'ils croient qu'on peut perdre le salut. Mais en fait, ces gens ne sont pas sauvés, ils n'ont pas compris le fait que le salut est éternel. Ça, on le verra dans un troisième point. Donc, dans un premier temps, Jésus, c'est l'auteur de notre foi. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, on va aller à Romains chapitre 10, verset 17. Parce que lorsque nous sommes sauvés par la parole de Dieu, c'est-à-dire que quand quelqu'un vous annonce l'évangile, quand il vous donne des versets, c'est ce qui va faire que vous allez y ajouter foi. Sans la parole de Dieu, personne ne peut être sauvé. Et Romains 10, 17 nous le montre bien, parce qu'il est dit « Ainsi donc la foi vient en entendant, et ce qu'on entend vient par la parole de Dieu. » Donc comment nous pouvons croire en Jésus-Christ? Parce que nous entendons la parole de Dieu. Donc personne ne peut être sauvé sans la parole de Dieu. Et qui est la parole dans la Bible? C'est Jésus-Christ. Notamment Jean chapitre 1, verset 1, qui est très connu, qui nous dit « Au commencement était la parole ». Je vais le lire pour bien le citer. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et celui qui est la parole était Dieu. Donc la parole, c'est Jésus-Christ. La Bible nous dit qu'il était avec Dieu. Pourquoi? Parce que c'est le Fils de Dieu, il était avec Dieu le Père, il était avec Dieu le Saint-Esprit. Et celui qui est la parole était Dieu, parce que Jésus-Christ, bien sûr, est Dieu. Et d'ailleurs, il est bien dit au verset 14, pour bien confirmer que Jésus-Christ est la parole. Et la parole a été faite chair. Et a demeuré parmi nous, et nous avons contemplé sa gloire, la gloire comme du seul engendré du Père, pleine de grâce et de vérité. Donc c'est la parole qui a été faite chair, donc Jésus-Christ qui a été fait chair. Donc Jésus-Christ est clairement la parole. Et donc nous sommes sauvés par la parole de Dieu, donc nous sommes sauvés aussi par Jésus-Christ. Et d'ailleurs, c'est notre sauveur, bien sûr. Et d'ailleurs, en 1 Timothée 3,16, en parlant justement aussi qui est-ce qui s'est fait chair, il est dit « Et sans controverse, grand est le mystère de piété, Dieu fut manifesté dans la chair, justifié en l'esprit, vu des anges, prêché aux gentils, cru dans le monde et reçu en gloire. » Je vous lis ce verset parce qu'il est dit « Dieu fut manifesté dans la chair. » Et en Jean chapitre 1, verset 14, il est dit « La parole a été faite chair. » Ça, ça démontre clairement que Jésus-Christ est Dieu. Donc Jésus-Christ est la parole, il est Dieu, il est le Créateur. Quand on compare des Écritures avec d'autres Écritures, ça apporte toujours des éclairages, et c'est vraiment irréfutable le fait que Jésus-Christ est Dieu. Bien sûr, on croit en la Trinité. On croit au fait que le Père, le Fils et le Saint-Esprit sont trois personnes différentes et qu'ils forment un seul Dieu. Donc c'est le Père qui a envoyé le Fils, et Jésus-Christ, après, nous a envoyé le Saint-Esprit. Mais là où je veux me focaliser, c'est le fait qu'on est sauvé par la parole de Dieu, et qui est la parole dans la Bible? C'est Jésus-Christ. Donc nous sommes sauvés par Jésus-Christ, il est l'auteur de notre foi. Ensuite, il y a aussi le fait donc, que Jésus-Christ est le Créateur, comme on peut le lire en Colossiens chapitre 1 notamment. Colossiens chapitre 1 au verset 13. Colossiens chapitre 1 verset 13 qui nous dit qu'il nous a délivrés du pouvoir de l'obscurité et nous a transférés dans le royaume de son cher fils en qui nous avons la rédemption par son sang, c'est-à-dire le pardon des péchés, qui est l'image du Dieu invisible, le premier-né de chaque créature. On va continuer jusqu'au verset 17. Car par lui toutes choses furent créées, celles qui sont dans le ciel et celles qui sont sur la terre, visibles et invisibles, qu'ils soient trône ou domination ou principauté ou pouvoir. Toutes choses ont été créées par lui et pour lui, et il est avant toutes choses, et par lui toutes choses consistent. Ces versets montrent clairement le fait déjà que c'est Jésus-Christ qui nous sauve, qu'on a la rédemption par son sang, le pardon des péchés, mais aussi le fait que toutes choses furent créées par lui. Donc Jésus-Christ a créé toutes choses, et il est avant toutes choses, et par lui toutes choses consistent. Donc c'est des versets clairs qui montrent que Jésus-Christ est notre créateur. C'est l'auteur de l'humanité, c'est celui qui a créé les hommes. Avec bien sûr Dieu le Père et Dieu le Saint-Esprit, mais Jésus-Christ est notre Créateur, il nous a créés. Et en Jean chapitre 1, verset 3, il nous dit même que sans lui, aucune chose n'a été faite de ce qui a été fait. Donc toute chose que vous pouvez voir a été créée par Jésus. Jésus est l'auteur de toute chose. Donc pourquoi Jésus-Christ est l'auteur de notre foi? Parce que déjà, c'est lui qui nous a créés. Et en plus aussi parce qu'il a été préordonné avant la fondation du monde, comme il est dit en 1 Pierre chapitre 1, si vous voulez y aller. 1 Pierre chapitre 1, on va lire des versets 18 à 20. Donc là, de quoi on parle? On parle du fait que Jésus-Christ est l'auteur de notre foi, et donc qu'il est le Créateur, que nous sommes sauvés par Jésus-Christ, qu'il est la parole, mais aussi le fait qu'il a été prévu d'avance, qu'il a été préordonné avant la fondation du monde. Il est dit, 1 Pierre chapitre 1, verset 18, « D'autant plus que vous savez que vous n'avez pas été rachetés de votre vain comportement reçu par tradition de vos pères, par des choses corruptibles comme l'argent et l'or, mais par le précieux sang de Christ, comme celui d'un agneau sans défaut et sans tache, qui en vérité était préordonné avant la fondation du monde, mais a été manifesté dans ces derniers temps pour vous. » Donc la parole est claire, il nous dit « En vérité, il était préordonné avant la fondation du monde. » Ça veut dire que Dieu savait d'avance, et Dieu avait prévu d'avance un plan du salut pour les humains. Et donc, c'est pas un plan B, ça toujours, Dieu avait prévu ça d'avance. Il savait que l'humanité allait pécher, il avait déjà prévu le fait que Jésus-Christ allait donner sa vie pour nous. Donc Jésus, on a vu quelques points, mais on pourra en voir plus, qui prouvent que Jésus-Christ est l'auteur de notre foi. Donc ça, c'est la première partie du passage. Il y a aussi le fait que Jésus est le finisseur de notre foi. Déjà, il faut savoir bien sûr que Jésus a tout accompli pour nous. C'est lui qui a payé pour le prix pour nos péchés. Il a tout accompli pour nous par sa crucifixion, son ensevelissement, sa résurrection. Et que le salut est gratuit. Bien sûr, comme le dit Romains 6, 23, car le salaire du péché est la mort, mais le don de Dieu est la vie éternelle par Jésus-Christ notre Seigneur. Ça veut dire que c'est gratuit pour nous. Jésus-Christ a accompli pour nous, il a payé à notre place, nous avons juste à y croire. Donc quand nous mettons notre confiance en Jésus-Christ, Jésus-Christ nous garde pour toujours et nous avons la vie éternelle. Et il faut aussi savoir que la Bible dit que Jésus est la vie éternelle. En 1 Jean chapitre 5, Jean chapitre 5, verset 20. Jésus-Christ nous donne la vie éternelle, mais il est lui-même la vie éternelle. Jean chapitre 5, verset 20, qui nous dit « Et nous savons que le Fils de Dieu est venu et nous a donné une compréhension afin que nous puissions connaître celui qui est vrai. Et nous sommes en lui qui est vrai, à savoir en son Fils Jésus-Christ. C'est lui le vrai Dieu et la vie éternelle. Jésus-Christ est le vrai Dieu, il est la vie éternelle. Donc, qui est le finisseur de notre foi? Est-ce que c'est nous ou est-ce que c'est Jésus? C'est Jésus-Christ qui est le finisseur de notre foi. Parce que Jésus-Christ est la vie éternelle. Et la Bible est claire que c'est Jésus qui va finir notre foi, comme on l'a vu en Hébreux chapitre 12. C'est pourquoi le salut, il est pour toujours. Parce que Jésus-Christ est parfait. Donc, ce qu'il dit qu'il va faire, il va l'accomplir parfaitement. Donc, si Jésus-Christ dit qu'il va être l'auteur, mais aussi le finisseur de notre foi, il faut ajouter confiance en lui, et on peut être sûr qu'il va le faire parfaitement, parce que c'est pas un homme pour mentir, Dieu ne ment pas. Dieu va accomplir ce qu'il a dit. Et donc, c'est pas nous-mêmes qui sommes les finisseurs de notre foi, c'est Dieu lui-même qui est le finisseur de notre foi. Ça signifie que lorsque vous croisez quelqu'un, ou quand quelqu'un enseigne que l'on peut perdre la foi, et donc perdre le salut, parce qu'il y a des gens qui vous disent que vous pouvez perdre la foi, et donc perdre le salut, il y a des gens qui vous disent que si vous reniez Jésus, merci. Si vous reniez Jésus et donc vous perdez le salut, des personnes qui enseignent ça, oh, vous pouvez arrêter de croire en Jésus-Christ, donc vous allez perdre le salut, oh, vous pouvez renier Jésus, donc vous allez perdre le salut, tout ça c'est des mensonges, et les personnes ne seront pas sauvées parce qu'elles n'ont pas confiance en Jésus-Christ. Parce que si elles avaient confiance en Jésus-Christ, elles sauraient que Jésus-Christ est l'auteur et le finisseur de notre foi. Ça veut dire que Jésus-Christ va accomplir ce qu'il a dit, et on peut être certain d'aller au paradis quand on a cru en lui, parce que Jésus va accomplir ce qu'il a dit. Et bien sûr, il y a plein d'autres raisons et plein d'autres versets qui montrent que le salut est pour toujours. Mais c'est très important de savoir qu'aussi ces versets sont très clairs à ce sujet. Que Jésus va finir ce qu'il a commencé. Et donc croire que le salut est pour toujours, c'est indispensable pour être sauvé. Car c'est ça, faire confiance à Jésus-Christ. Si vous dites que vous pouvez perdre le salut, ça veut dire que vous n'avez pas confiance en lui. Vous n'avez pas confiance au fait qu'il va finir ce qu'il a commencé. Vous n'avez pas confiance que vous avez la vie éternelle. Et vous n'avez pas confiance en Dieu, tout simplement. Et donc le salut, c'est un événement. On va y revenir plus tard. Mais le salut, c'est un événement. On va lire aussi, donc on était en 1 Jean chapitre 5, c'est parfait, on va aller au verset 10 à 13, qui nous parle encore de Jésus-Christ, qui nous parle de la vie éternelle. 1 Jean chapitre 5, verset 10, « Celui qui croit au Fils de Dieu a le témoignage au-dedans de lui-même. Celui qui ne croit pas Dieu a fait de lui un menteur parce qu'il n'a pas cru l'attestation que Dieu a donnée de son Fils. » Et ceci est l'attestation que Dieu nous a donné la vie éternelle, et cette vie est dans son Fils. Donc quelle est l'attestation de Dieu? Comme on le voit au verset 11, c'est que Dieu nous a donné la vie éternelle, et cette vie est dans son Fils. Et quand on compare ça avec le verset 10, où il est dit « Celui qui ne croit pas Dieu a fait de lui un menteur, parce qu'il n'a pas cru l'attestation que Dieu a donnée de son Fils. » Donc les gens qui ne croient pas l'attestation, ça veut dire qu'ils ne croient pas que Dieu leur donne la vie éternelle, ils font de Dieu un menteur. Et ces versets montrent clairement que quelqu'un qui dit qu'on peut perdre le salut, font de Dieu un menteur, parce qu'ils ne croient pas en l'attestation de Dieu, parce que quelle est l'attestation de Dieu? C'est que Dieu nous a donné la vie éternelle. Donc Dieu ne nous a pas donné la vie temporaire, il nous a donné la vie éternelle. Donc tous les gens qui disent qu'on peut perdre le salut font de Dieu un menteur. Et ces versets le prouvent clairement, ça fait partie du salut de croire que la vie est éternelle. Parce que quand on fait pleinement confiance à Jésus-Christ, on sait qu'il va accomplir ce qu'il a dit. Et au verset 12 et 13, il est dit « Celui qui a le Fils a la vie, et celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie ». Ces choses, je les ai écrites à vous qui croyez au nom du Fils de Dieu, afin que vous puissiez savoir que vous avez la vie éternelle, et afin que vous puissiez croire au nom du Fils de Dieu. C'est un bon verset à montrer aux personnes qui doutent du fait d'être sauvées, parce que le verset 13 nous dit « Ces choses, je les ai écrites à vous qui croyez au nom du Fils de Dieu, afin que vous puissiez savoir que vous avez la vie éternelle. » Donc vous savez que vous avez la vie éternelle, c'est au présent. Le jour où vous croyez en lui, vous savez que vous avez la vie éternelle, parce que Dieu le dit. Et donc ce jour même, cet événement qui s'appelle le salut, est pour toujours après. Vous avez la vie éternelle, vous êtes certain d'aller au paradis. On va aller en Jean chapitre 6 aussi. Parce que là, de quoi on parle? On parle du fait que Jésus est le finisseur de notre foi. Donc Jésus-Christ est la vie éternelle. Jésus-Christ nous donne la vie éternelle en plus. Donc il nous donne une vie pour toujours. Ce qui montre que Jésus-Christ va finir ce qu'il a accompli. Qu'on est sauvé pour l'éternité. Mais en Jean chapitre 6 aussi, il est dit que Jésus ne perd rien. De ce que le Père lui a donné. Au verset 39, il est dit « Et cela est la volonté du Père qui m'a envoyé, que je ne perde rien de tout ce qu'il m'a donné, mais que je le ressuscite au dernier jour. Et cela est la volonté de celui qui m'a envoyé, que quiconque voit le Fils et croit en lui, ait la vie sempiternelle, et je le ressusciterai au dernier jour. » Au verset 39, il montre clairement que la volonté du Père, c'est que Jésus-Christ ne perde rien de tout ce qu'il m'a donné. et donc il le ressuscite au dernier jour. Ce qui montre que la volonté de Dieu, c'est le fait que quand vous avez cru en Jésus-Christ, Jésus-Christ ne va perdre personne parce que vous êtes gardé par Dieu et parce que Dieu vous promet qu'il va vous ressusciter. Donc vous pouvez être sûr de ressusciter à la vie éternelle lorsque vous avez cru en Jésus-Christ parce que c'est la volonté du Père et parce que Dieu le montre dans sa parole parce que vous avez la vie éternelle. Donc ça, c'est encore une preuve que Jésus-Christ est le finisseur de notre foi. C'est lui qui nous garde. Jésus-Christ ne va perdre personne qui lui appartient et il vous promet qu'il va vous ressusciter. Et on va aller dans Luc chapitre 14 aussi pour lire des versets 28 à 30 pour vous montrer que le fait de ne pas achever quelque chose que vous avez commencé, eh ben c'est quelque chose de honteux. Donc les personnes qui disent qu'on peut perdre la foi, les personnes qui disent qu'on peut perdre le salut, les personnes qui disent qu'on peut arrêter de croire, ils blasphèment Dieu parce que c'est honteux de ne pas accomplir quelque chose quand on l'a commencé. C'est ce que nous dit Dieu en Luc 14, 28. C'est Jésus-Christ qui parle, et il parle, c'est dit au verset 25, et de grandes multitudes allaient avec lui et se tourna et leur dit, donc Jésus-Christ parle à plusieurs personnes, et il dit au verset 28, « Car lequel de vous, envisageant de bâtir une tour, ne s'assied d'abord et ne calcule la dépense pour voir s'il a suffisamment pour l'achever, de peur qu'après qu'il en a posé la fondation et ne soit pas capable de l'achever, tous ceux qui le regarderont ne commencent à se moquer de lui, disant « Cet homme a commencé à bâtir et n'a pas été capable d'achever. » Donc si vous n'êtes pas capable d'achever quelque chose dans lequel vous investissez, dans lequel vous commencez, ce n'est pas quelque chose de louable, c'est quelque chose de honteux. Parce qu'il est bien dit ici, tous ceux qui le regarderont commencent à se moquer de lui. Cet homme a commencé à bâtir et n'a pas été capable d'achever. Donc ne pas être capable d'achever, ce n'est pas quelque chose de bien, ce n'est pas quelque chose qui est considéré comme quelque chose de bien. Donc les personnes qui disent que Jésus-Christ n'est pas capable d'achever quelque chose, ils blasphèment Jésus-Christ, ils disent que Jésus-Christ n'est pas parfait. Or, Jésus-Christ, bien sûr, est parfait, il va achever ce qu'il a accompli. C'est pour ça que je vous montre ces versets, pour vous montrer que le fait de ne pas achever ce que vous avez commencé, ce n'est pas quelque chose qui est louable. C'est quelque chose, justement, dont les personnes, Jésus-Christ dit, vont se moquer de lui, parce qu'il n'a pas été capable d'achever. Et donc, bien sûr, Dieu est parfait, Dieu va achever ce qu'il a commencé, et ce qui montre que Jésus-Christ est le finisseur de notre foi. Donc on a vu que Jésus-Christ est l'auteur de notre foi, c'est par lui qu'on est sauvé, bien sûr, c'est Jésus-Christ notre sauveur, Jésus-Christ a été préordonné avant la fondation du monde, Jésus-Christ est le créateur, mais aussi Jésus-Christ est le finisseur de notre foi. C'est lui la vie éternelle, c'est lui qui a payé le prix pour nos péchés, c'est lui qui va achever ce qu'il a commencé, qui va nous ressusciter et qui nous garde. Maintenant, dans une troisième partie, on va parler du fait qu'un chrétien sauvé ne peut pas arrêter de croire. Et on va aller dans Éphésiens chapitre 4. Ça, c'est très important. Et si je prêche à ce sujet, c'est parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent justement qu'un chrétien sauvé peut arrêter de croire. Et c'est un faux enseignement très grave parce que ça conduit des personnes en enfer, ça conduit des personnes dans des faux enseignements. Et des personnes, justement, ça pousse les personnes à ne pas mettre leur confiance en Jésus-Christ. Éphésiens 4, 30 nous dit « Et n'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous êtes scellés jusqu'au jour de la rédemption. » Et ce verset nous montre que on le voit dans d'autres passages, que lorsqu'on croit en Jésus-Christ, nous recevons l'Esprit-Saint. Et la Bible nous dit de ne pas l'attrister. Pourquoi ? Parce que le Saint-Esprit vit en nous, et si on vit dans le péché, si on ne fait pas la volonté de Dieu, on va attrister le Saint-Esprit. Et il est dit par lequel vous êtes scellés jusqu'au jour de la rédemption. Donc c'est un scellage qui a lieu lorsque vous croyez en Jésus-Christ. Le jour où vous mettez votre foi en lui, il y a un scellage qui a lieu. L'Esprit-Saint vient vivre en vous et vous en êtes scellé jusqu'au jour de la rédemption. Ça veut dire que le Saint-Esprit vit en vous pour toujours. Il ne peut plus partir. Donc un chrétien qui est sauvé ne peut pas être possédé, par exemple. Il y a des personnes qui sont possédées, mais un chrétien sauvé ne peut pas être possédé parce qu'il est scellé de l'Esprit-Saint et la Bible nous dit que les démons et Dieu ne peuvent pas vivre en même temps au même endroit. Enfin, je paraphrase complètement, mais pour vous dire que vous ne pouvez pas être possédé quand vous êtes un chrétien sauvé parce que le Saint-Esprit vit en vous. Et que le Saint-Esprit ne va jamais vous quitter. Vous en êtes scellé. C'est un scellage et c'est une promesse de Dieu. Ce qui montre d'ailleurs que le salut est pour toujours. Parce que vous êtes scellé de l'Esprit-Saint. Et en Romains chapitre 8, on va comparer ça avec Romains chapitre 8, versets 15 et 16. Donc lorsque vous croyez en Jésus-Christ, le Saint-Esprit vient vivre en vous. Vous en êtes scellé pour toujours. Et il est dit en Romains chapitre 8, versets 15 et 16. « Car vous n'avez pas reçu l'esprit de servitude pour de nouveau craindre, mais vous avez reçu l'esprit d'adoption par lequel nous crions « Abba, Père ». L'esprit lui-même rend témoignage avec notre esprit que nous sommes les enfants de Dieu. Donc ce verset, le verset 16 est très important parce qu'il nous montre que l'Esprit Saint qui vit en vous, comme on a vu, quand vous croyez en Jésus-Christ, l'Esprit Saint, d'ailleurs il y a Éphésiens chapitre 1 verset 13 je crois, qui montre que justement comment on reçoit l'Esprit Saint. On va pas l'étudier, mais c'est quand vous croyez en Jésus-Christ, vous recevez l'Esprit Saint. C'est Éphésiens chapitre 1 verset 13. Mais le verset 16 de Romains 8 nous dit que l'Esprit Saint qui vit en vous rend témoignage avec votre esprit que vous êtes les enfants de Dieu. Ça veut dire que l'Esprit Saint qui vit en vous vous rappellera toujours que vous êtes un enfant de Dieu. Donc vous n'arrêterez jamais de croire en Jésus-Christ. Vous ne pouvez pas arrêter de croire en Jésus-Christ parce que l'Esprit Saint qui vit en vous vous rappelle toujours que vous êtes son enfant. Et ça c'est très important parce que ça montre qu'un chrétien sauvé ne peut jamais arrêter de croire. Si quelqu'un vous dit « Oui, moi avant je croyais en Jésus, mais maintenant j'y crois plus du tout, je suis bouddhiste », ça montre que cette personne n'a pas cru en Jésus-Christ. Parce que si cette personne avait vraiment cru en Jésus-Christ, elle n'arrêtera jamais d'y croire. Par contre, ça n'empêche pas, bien sûr, qu'une personne doute, qu'une personne vive dans le péché, qu'une personne n'aille pas à l'église. Il y a beaucoup de gens qui sont sauvés, qui ne vont pas à l'église, qui vivent dans le péché, qui ne glorifient pas Dieu. Mais au fond de leur cœur, ces personnes croient en Jésus-Christ, parce qu'elles ont le Saint-Esprit. Donc je ne parle pas, bien sûr, du fait qu'un chrétien qui est sauvé va automatiquement faire des bonnes œuvres, ça c'est pas vrai. Ça demande des efforts. Les chrétiens sauvés, et d'ailleurs il y en a beaucoup qui ne font pas d'œuvres. Ce que je veux expliquer, c'est le fait que quand vous êtes sauvé, vous avez l'Esprit Saint en vous, et cet Esprit Saint vous rappelle toujours que vous êtes un enfant de Dieu. Donc vous ne pouvez pas arrêter de croire en Jésus-Christ, c'est impossible. Tous les faux prophètes qui disent qu'un chrétien sauvé peut arrêter de croire en Jésus-Christ, ou perdre la foi, ils vous mentent et ils trompent. Et c'est un salut par les œuvres qu'ils vous annoncent, parce qu'ils vous disent en gros que vous devez continuer à croire jusqu'à votre mort, donc que vous devez persévérer dans la foi pour être sauvé. Mais ça c'est faux. Lorsque vous avez mis votre confiance en lui, vous ne pouvez pas arrêter de croire en lui. Et Jean chapitre 1, versets 12 et 13, qui sont très connus aussi sur la nouvelle naissance. Jean chapitre 1, versets 12 et 13, nous parle de cet événement qui est la nouvelle naissance. Je vous ai dit tout à l'heure que le salut, c'était un événement. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à eux, il a donné le pouvoir de devenir les fils de Dieu, c'est-à-dire à ceux qui croient en son nom, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Donc quand vous croyez en Jésus-Christ, vous devenez un enfant de Dieu, et vous n'êtes pas né du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Ce qui montre que vous êtes un enfant de Dieu. Et combien de fois vous êtes né sur cette terre? Une seule fois. De même, la nouvelle naissance a lieu une seule fois. Le jour où vous êtes né de nouveau, vous faites partie de la famille de Dieu, c'est un événement. Et le salut est un événement, ce n'est pas un processus. La vie chrétienne est un processus, c'est tous les jours jusqu'à notre mort, mais le salut est un événement et il y a un jour précis où vous avez été sauvé. Et à ce jour précis où vous avez été sauvé, l'Esprit Saint vient vivre en vous, il demeure en vous pour toujours. De ce jour-là jusqu'à votre mort, vous n'arrêterez jamais de croire en Jésus-Christ et vous êtes certain d'aller au paradis parce que Dieu a pardonné vos péchés, Dieu les a oubliés. Quoi que vous allez faire dans votre vie, vous êtes sauvé. Donc qu'est-ce que vous pouvez vous attendre si vous commettez du péché? Être châtié, être puni par Dieu. Mais en aucun cas, vous perdez votre salut. Et en aucun cas, vous n'arrêtez de croire en Jésus-Christ aussi. Donc le salut est vraiment un événement, ça s'appelle la nouvelle naissance. De même que vous êtes né une fois sur cette terre, vous avez besoin de naître de nouveau une seule fois. Et donc un croyant sauvé, il ne peut pas perdre le salut, bien sûr, il ne peut pas perdre la foi, il ne peut pas arrêter de croire en Jésus-Christ. Cependant, il peut avoir des doutes, comme j'ai dit, un chrétien sauvé peut très bien vivre dans la chair, il peut avoir des doutes, il peut faire naufrage contre la foi aussi, c'est biblique, des personnes qui font naufrage. Ou avoir une foi morte, comme on parle Jacques chapitre 2. Ils peuvent même renier Jésus, comme on voit Pierre qui fait. Il renie Jésus devant les hommes. Mais cela, ça ne fait pas perdre le salut, absolument pas. Et il n'arrêtera jamais de croire pour autant. Et d'ailleurs, on va aller voir un peu justement le fait que Pierre ait renié Jésus en Luc chapitre 22. Pour bien voir la distinction, il y a une grosse distinction. Un chrétien sauvé, pour bien montrer la distinction, un chrétien sauvé, il n'arrêtera jamais de croire en Jésus-Christ, il est sauvé pour toujours. Par contre, un chrétien sauvé, il peut avoir des doutes, il peut faire un naufrage quant à la foi, il peut vivre dans le péché, il peut même renier Jésus devant les hommes, mais il n'arrêtera jamais de croire pour autant. Et on va voir en Luc chapitre 22 le fait que Pierre, qui est un des plus grands chrétiens qui a existé, par la peur des persécutions, la peur des hommes, il va renier Jésus devant les hommes. Et c'est Luc chapitre 22, verset 31. Verset 31 et 32. Et c'est Jésus-Christ qui parle justement à Pierre, à Simon-Pierre, et il lui dit, « Et le Seigneur dit, Simon, Simon, voici Satan a désiré vous avoir afin qu'il puisse vous passer au crible comme le blé. mais j'ai prié pour toi afin que ta foi ne défaille pas et quand tu seras converti, fortifie tes frères. » Jésus-Christ prie pour Pierre pour pas que sa foi défaille. Et il prie, il lui dit aussi que quand il sera converti, il lui dit de fortifier ses frères. Et bien sûr, Pierre est déjà converti par rapport au salut. Pierre est déjà sauvé, donc quand il est utilisé le mot converti ici, je ne sais pas si c'est ce mot-là que vous avez dans votre Bible, mais ça parle du fait que quand tu seras relevé, quand tu auras retrouvé, enfin quand tu seras plus fort dans ta foi, donc quand tu seras relevé. C'est pour ça qu'il lui dit quand tu seras converti, fortifie tes frères. Parce qu'il va chuter. Et ça arrive à tout le monde et on n'est pas à l'abri de chuter en tant que chrétien. Et c'est pour ça que Jésus-Christ priait pour lui. Et d'ailleurs, on voit au verset 60, qu'est-ce qui va arriver ? Pierre va renier Jésus-Christ. Et Pierre dit : « Homme, je ne sais ce que tu dis. » Et immédiatement, tandis qu'il parlait encore, le coq chanta. Et le Seigneur se retourna et regarda Pierre. Et Pierre se souvint de la parole du Seigneur, comme il lui avait dit : « Avant que le coq ait chanté, tu me renieras trois fois. » Et Pierre sortit et pleura amèrement. Donc ici, Pierre va renier Jésus parce qu'il a peur. Il a peur de ce qui pourrait lui arriver, il a peur des hommes. Mais là, Pierre n'a jamais perdu son salut, Pierre était déjà sauvé. Et bien sûr, Pierre a été sauvé pour l'éternité. Ce qu'il a fait, c'est qu'il a renié Jésus devant les hommes. Et là où je veux en venir, c'est qu'on peut tous chuter comme Pierre l'a fait, on peut tous avoir peur, on peut tous avoir peur que quelqu'un justement nous fasse du mal à cause du nom de Jésus-Christ. D'ailleurs, Jésus a dit que lorsqu'on vit fidèlement pour lui, on sera persécuté. Donc il faut s'attendre à avoir des persécutions, et c'est pourquoi il faut être vigilant et qu'il faut tenir ferme, et que bien sûr, il ne faut jamais faire ça, il ne faut jamais renier Jésus devant les hommes, mais ça peut nous arriver si on n'est pas vigilant. Et on va aller aussi à 2 Timothée chapitre 2. Donc là, dans cette histoire de Pierre, on peut voir que même un homme sauvé, qui est l'un des plus grands chrétiens, peut renier Jésus. Et il n'a pas perdu son salut, bien sûr. Il n'a jamais arrêté de croire en Jésus-Christ, il a simplement eu peur. Il n'a pas renié Jésus dans le sens où il ne croyait plus en lui, c'est dans le sens où il a eu peur des hommes. De Timothée chapitre 2, verset 10. On va un peu étudier les versets 10 à 13. Donc ce contexte de Timothée chapitre 2, c'est un contexte de persécution. C'est un contexte du fait d'endurer et de ne pas compromettre. On voit ici que Paul parle justement de la persécution qui attend les chrétiens, et notamment il parle à Timothée, et il lui dit d'endurer, il lui dit de ne pas compromettre, parce que qu'est-ce qu'on a tendance à faire lorsqu'on est persécuté, c'est compromettre, et de lâcher aussi. Alors justement, il invite Timothée à endurer, et au verset 10, il est dit « Par conséquent, j'endure toute chose à cause des élus, afin qu'il puisse aussi obtenir le salut, lequel est en Christ Jésus avec la gloire éternelle. » Donc Paul ici dit qu'il endure toute chose justement pour que les gens soient sauvés. Et au verset 11, c'est un propos fidèle, car si nous sommes morts avec lui, nous vivrons aussi avec lui. Si nous souffrons, nous régnerons aussi avec lui. Si nous le renions, il nous reniera aussi. Si nous ne croyons pas, il demeure cependant fidèle, il ne peut se renier lui-même. Et donc au verset 11, il parle du fait d'être sauvé. C'est un propos fidèle. Si nous sommes morts avec lui, nous vivrons aussi avec lui. Donc les personnes qui sont mortes avec lui sont des personnes qui ont cru en Jésus-Christ. Leur chair a été crucifiée avec lui. Donc ils vivront avec lui, ils ont la vie éternelle. Donc le verset 11 parle du salut. Le verset 12 nous parle du fait que si nous souffrons avec lui, nous régnerons aussi avec lui. Pourquoi ? Parce que lorsque vous souffrez avec lui, lorsque vous faites des œuvres, vous aurez une meilleure place dans le royaume de Dieu. Dieu va vous récompenser selon vos œuvres. C'est-à-dire que toutes les œuvres que vous faites pour Christ vous permettront d'avoir des récompenses éternelles. Et si vous voulez régner avec Christ, si vous voulez régner avec Jésus, il faut souffrir avec lui, il faut œuvrer pour lui. Et quand on œuvre pour Jésus, ça va forcément avec la souffrance, parce que vous allez être rejeté, parce que vous allez être haï, parce que c'est dur, la vie de chrétien est dure, mais vous régnerez avec lui. Donc c'est une promesse que Dieu vous fait, que si vous œuvrez pour lui, vous aurez des récompenses éternelles. Donc là, ça parle de notre vie de chrétien, et il est dit, si nous le renions, il nous reniera aussi. Et là, ça ne veut pas dire, bien sûr, qu'il va nous renier dans le sens où vous allez perdre votre salut, vous allez en enfer, c'est absolument pas ça. Ce qu'il vous dit, c'est que si vous le reniez devant les hommes, il vous reniera aussi dans le sens où, par exemple, vous allez perdre des récompenses. Il ne va pas vous récompenser comme quelqu'un qui, justement, a enduré, quelqu'un qui a souffert. Donc c'est le fait de vous renier pour les récompenses. Et c'est le fait que, justement, si vous reniez Christ, peut-être que vous pouvez être châtié par Dieu, et d'ailleurs, vous allez forcément souffrir aussi, et vous n'allez pas être récompensé. Et au verset 13, il est dit, si nous ne croyons pas, mais je pense que vous, c'est si nous ne sommes pas fidèles, quelque chose comme ça, il demeure cependant fidèle, il ne peut se renier lui-même. Et ici, dans ma version, j'ai si nous ne croyons pas, et ça ne veut pas dire que si vous arrêtez de croire en lui, si nous ne croyons pas, ça veut dire que si vous défaillez dans votre foi, si voilà, vous faites naufrage quant à la foi, lui demeure fidèle, il ne peut se renier lui-même. Donc ici, ce n'est pas un contexte de salut, c'est un contexte de vie chrétienne, d'endurer la persécution et que, par exemple, on manque de foi en Jésus-Christ lorsqu'on traverse des moments difficiles. Et bien lui, il demeure fidèle parce qu'il ne peut pas se renier lui-même. Donc même si ça ne parle pas du salut, c'est sûr que quand vous avez cru en Jésus-Christ, il demeure fidèle parce qu'il ne peut pas se renier, parce qu'il ne peut pas mentir. Donc Jésus-Christ, quand vous êtes son fils, quand vous êtes son enfant, vous êtes un enfant de Dieu, il demeure fidèle. Mais là, ça montre encore une fois que vous pouvez faire naufrage quant à la foi, et vous pouvez renier Jésus aussi, mais cela ne vous fait pas perdre le salut, bien sûr, je le répète souvent, parce que, pour bien que vous soyez sûr qu'on ne peut pas perdre le salut, mais c'est simplement le fait que vous pouvez perdre des récompenses, et que vous allez forcément désobéir à Dieu aussi. Et on va aller dans 1 Timothée chapitre 2. 1 Timothée chapitre 2, donc là on était dans 2 Timothée. Au verset 18. Timothée chapitre 2. Non, pardon, c'est 1 Timothée chapitre 1, verset 18. On va lire des versets 18 à 20. « Cette charge, je te la remets, fils Timothée, selon les prophéties lesquelles ont été faites précédemment sur toi, que par elles tu puisses combattre un bon combat, gardant la foi et une bonne conscience. Cette dernière, quelques-uns l'ayant rejetée, concernant la foi, ils ont fait naufrage, desquels sont Hyménée et Alexandre, lesquels j'ai livrés à Satan, afin qu'ils puissent apprendre, à ne pas blasphémer. » Et ici, ça parle de personnes sauvées. Hyménée et Alexandre sont des personnes sauvées, mais Paul va les livrer à Satan pour qu'ils apprennent à ne pas blasphémer. Donc peut-être qu'il les a éjectés de l'église, peut-être qu'il les a écartés du groupe de chrétiens. Et il les a livrés à Satan parce que forcément, ils ne sont plus avec les chrétiens, ils ne sont plus en assemblée, donc ils sont livrés au péché. Et ici, il est dit, gardant la foi et une bonne conscience, cette dernière, quelques-uns l'ayant rejetée. Donc qu'est-ce qu'ils ont rejeté? Ils ont rejeté leur bonne conscience. Et concernant la foi, ils ont fait naufrage. Donc ça veut dire qu'un chrétien peut très bien faire naufrage quant à la foi. Ils n'ont pas arrêté de croire, mais ils ont fait naufrage parce que, par exemple, ils vont tomber dans le péché, parce que, par exemple, ils vont tomber dans des fausses doctrines, pas des fausses doctrines graves, mais des fausses doctrines quand même. Et là, Paul nous montre qu'il y a des personnes qui peuvent faire naufrage quant à la foi et qui sont sauvées. Et malheureusement, ça va faire en sorte qu'ils sont poussés vers Satan, qu'ils sont poussés en dehors de l'Église. Par exemple, des gens qui vont commettre la fornication doivent être enlevés et éjectés de l'Église. Et ils vont être livrés à Satan parce qu'ils ne sont plus en assemblée. Et pour qu'ils apprennent justement à se mettre en règle avec Dieu. Mais ici, on voit bien qu'il y a des gens qui font naufrage quant à la foi et qui sont sauvés. Et cela, ça ne parle pas du salut, bien sûr. Ça parle du fait, comme j'ai dit, donc du fait que vous allez désobéir à Dieu. On va aller maintenant dans 1 Timothée chapitre 5. Qui parle encore de la foi. On va vers beaucoup d'écritures justement pour vous montrer qu'est-ce qu'un chrétien sauvé peut faire. Au verset 8, il est dit « Mais si quelqu'un ne pourvoit pas pour les siens, et spécialement pour ceux de sa propre maison, il a renié la foi et est pire qu'un infidèle. » Donc si une personne qui a une famille, des enfants, une femme, mais qui ne va pas travailler, il est dit qu'il a renié la foi et il est pire qu'un infidèle. Parce que c'est un péché qui est vraiment terrible de ne pas s'occuper de sa famille. Et donc c'est possible de renier la foi. C'est-à-dire c'est possible de désobéir à Dieu. Ici c'est un contexte où la personne désobéit à Dieu. Elle ne fait pas la volonté de Dieu. Et Dieu dit qu'elle est pire qu'un infidèle. Et d'ailleurs il est dit aussi au verset 11 et 12, en parlant des jeunes veuves, « Mais refuse les plus jeunes veuves, car lorsqu'elles progressent dans la lascivité contre Christ, elles veulent se marier, étant condamnables parce qu'elles ont rejeté leur première foi. » Donc on voit ici qu'elles rejettent leur première foi. Avant il est dit « renier la foi ». Ce qui montre clairement qu'un chrétien peut renier la foi. Il peut rejeter sa première foi. Il peut faire naufrage quant à la foi, donc. Donc il peut déshonorer Dieu, il peut désobéir à Dieu. Mais ça signifie pas le fait que vous allez arrêter de croire en Jésus-Christ. Ça signifie le fait que vous pouvez chuter. Qu'un chrétien sauvé peut chuter. Il n'arrête pas de croire en Jésus-Christ, il est toujours sauvé, il ne perd pas le salut, mais il peut chuter. Et on va aller, pour terminer, étudier 1 Pierre chapitre 1. Je vais dans beaucoup d'écritures pour bien vous montrer ce que dit la Bible par rapport à un chrétien. Après, je reprendrai tous les points que je vous ai dit pour que ce soit vraiment clair. Mais pour un chrétien sauvé, en 1 Pierre chapitre 1, on va lire des versets 3 à 7. Qui nous dit « Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, lequel, selon son abondante miséricorde, nous a engendrés de nouveau en une espérance vivante par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts, pour un héritage incorruptible et non souillé, et qui ne peut se flétrir, réservé dans le ciel pour vous, qui êtes gardés par le pouvoir de Dieu, par la foi au salut, qui est prêt à être révélé au dernier moment. En quoi vous vous réjouissez grandement, bien que maintenant, pour une saison si besoin est, vous soyez abattus par de multiples tentations. » Afin que l'épreuve de votre foi, étant beaucoup plus précieuse que l'or qui périt, bien qu'il soit éprouvé par le feu, puisse être trouvée en louange et honneur et gloire à l'apparition de Jésus-Christ. Ici, on peut diviser ça en deux parties, des versets 3 à 5, où au verset 5, ça conclut pour nous dire qu'il est gardé par le pouvoir de Dieu, par la foi au salut, qui est prêt à être révélé au dernier moment. Donc des versets 3 à 5, ça parle du salut. On voit qu'il nous dit la foi au salut. Et le verset d'avant, d'ailleurs, il est dit que vous avez une place réservée dans le ciel pour vous, ce qui montre que quand vous avez cru en Jésus-Christ, votre place est déjà réservée, elle est sûre, vous êtes certain d'aller au paradis parce que Dieu vous dit qu'elle est réservée dans le ciel pour vous, et qui êtes gardé par le pouvoir de Dieu. Qui c'est qui vous garde? C'est Dieu. C'est pas vous-même, c'est Dieu qui vous garde, c'est Dieu qui est fidèle. Nous, on n'est pas fidèle, c'est Dieu qui nous est fidèle. Si on est sûr d'aller au paradis, c'est parce que Dieu est fidèle, c'est pas parce que nous sommes fidèles. Donc on est gardé par le pouvoir de Dieu, par la foi au salut. Donc lorsque vous, comme on avait vu, le salut est un événement, le jour où vous mettez votre foi en Jésus-Christ, c'est la foi au salut. Donc c'est-à-dire que c'est la foi qui vous a, la foi du jour de votre salut. Mais après, au verset 6 et 7, on voit que notre foi va être éprouvée. Il est dit « Afin que l'épreuve de votre foi, étant beaucoup plus précieuse que l'or qui périt, bien qu'il soit éprouvé par le feu, puisse être trouvée en louange et honneur et gloire à l'apparition de Jésus-Christ. » Donc ça, c'est la foi dans notre vie de chrétien. Donc c'est la foi qui va être éprouvée parce qu'on va avoir des difficultés, on va avoir des doutes. La vie chrétienne, elle est dure. Et donc vous voyez deux types de foi. En fait, vous avez la foi lorsque vous êtes sauvé et vous avez la foi de votre vie chrétienne. C'est pas une foi qui est différente, c'est dans le sens où quand vous avez cru en Jésus-Christ, vous arrêterez jamais de croire en lui. Mais après, votre foi, elle peut être petite ou elle peut être grande, elle peut augmenter, elle peut diminuer. Et c'est pour ça que nous, on doit augmenter dans la foi. On doit être plus fort dans la foi, on doit lire la Bible pour que notre foi augmente, on doit écouter des enseignements, on doit chanter, on doit demander à Dieu aussi d'augmenter notre foi. Par exemple, d'ailleurs, dans Luc 17, 5, Luc chapitre 17, verset 5, on voit que les disciples de Jésus lui demandent, c'est les apôtres, qu'ils augmentent leur foi. Pourtant, c'est des gens qui sont déjà sauvés. Il est dit, et les apôtres dirent au Seigneur, augmente notre foi. Donc c'est des personnes sauvées, mais ils veulent avoir plus de foi. Ils veulent faire plus d'œuvres pour Jésus-Christ. Ils veulent vivre pour Dieu. Donc nous, en tant que chrétiens sauvés, on doit demander à Dieu d'augmenter notre foi. Ils demandent d'augmenter. Ils demandent que Jésus augmente leur foi. Ce qui veut dire que vous avez la foi au salut. Le jour où vous êtes sauvés, vous croyez en Jésus-Christ. Vous y croyez pour toujours. Vous ne pouvez pas arrêter de croire en lui. Vous ne pouvez pas perdre la foi. Mais ensuite vient la vie de chrétien. Et là, on doit faire preuve de foi. On doit, d'ailleurs, il est dit, le juste vivra par la foi. Et donc, on doit continuer à progresser dans la foi, à apprendre, pour augmenter notre foi. Et au verset 9, d'ailleurs, dans 1 Pierre chapitre 1, où on était, il est dit, recevant l'achèvement de votre foi, c'est-à-dire le salut de vos âmes. Donc l'achèvement de notre foi, c'est le salut de nos âmes. Et qui c'est qui va, comme on l'avait vu tout à l'heure, qui c'est qui va finir ce qu'il a commencé? C'est Jésus-Christ. Jésus-Christ est l'auteur de notre foi. Il est le finisseur de notre foi. Ce qui veut dire que Dieu vous garde. Lorsque vous avez mis votre confiance en lui, il vous garde et vous êtes sûr d'aller au paradis. Et bien sûr, je parle de la foi, mais ce n'est pas la taille de votre foi qui vous permet d'être sauvé. C'est là où vous la mettez, en fait. Si vous mettez votre foi en Jésus-Christ, vous êtes sauvé. Peu importe la taille de votre foi, en fait. Simplement, y croire de tout son cœur. Donc en conclusion, et je vais justement un peu clarifier parce que ça faisait beaucoup d'informations, mais Jésus, on a vu que Jésus, il est l'auteur de notre foi, il est le finisseur de notre foi. Jésus est celui qui nous sauve, bien sûr, c'est notre sauveur, c'est notre créateur. Il est aussi la parole. Et Jésus-Christ va finir ce qu'il a accompli, il va nous garder. Il dit qu'il va nous ressusciter. il va accomplir ce qu'il a dit, il est la vie éternelle. Donc une fois que nous sommes sauvés, c'est ce que je veux que vous reteniez aujourd'hui, c'est que vous arrêterez jamais de croire en Jésus-Christ. C'est impossible d'arrêter de croire en Jésus-Christ, parce que vous êtes sauvés pour toujours, parce que vous souvenez, l'Esprit rend témoignage avec notre esprit que nous sommes les enfants de Dieu. Donc vous avez l'Esprit de Dieu qui vous rappelle toujours que vous êtes un enfant de Dieu. Donc vous n'arrêterez jamais de croire en lui. Le Saint-Esprit vit en vous et vous rappelle donc que vous êtes un enfant de Dieu. Puis Christ vit en vous aussi, c'est ce que dit la parole. Donc une personne sauvée est sauvée pour toujours, elle va toujours croire en Jésus-Christ. Par contre, qu'est-ce qu'une peur, une personne sauvée peut faire? Elle peut renier la foi, comme on l'a vu, par exemple les gens qui ne vont pas travailler, les hommes qui ne pourvoient pas pour leur maison plutôt. Une personne peut faire naufrage quant à la foi, c'est ce qu'on a vu avec Hyménée et Alexandre. Une personne peut avoir une foi morte, c'est ce que Jacques II enseigne, parce que si vous n'allez pas faire les œuvres, vous avez une foi morte, mais vous avez quand même une foi qui existe. Vous pouvez renier Jésus devant les hommes, comme Pierre l'a fait. Et cela ne vous fait pas perdre le salut, parce que le salut est éternel. Cela, ça vous fait tomber dans votre vie de chrétien. Et ça, c'est la différence entre le salut et la vie chrétienne. Le salut, c'est un événement. Lorsque vous placez votre foi en lui, vous y croirez pour toujours, vous êtes sauvé pour toujours. Après, la vie chrétienne commence, et la vie chrétienne, il faut augmenter dans notre foi. Il faut lire la Bible, il faut écouter des enseignements, il faut prier, et cela augmente notre foi. Et ça, c'est donc la différence entre le salut, qui est un événement, et la vie chrétienne, qui est tous les jours. Et on a bien vu le fait que Jésus est l'auteur et le finisseur de notre foi, ça prouve que le salut est seulement par la grâce aussi. Parce que Jésus est l'auteur de notre foi, il est le finisseur, donc on n'a aucun sujet de se glorifier. Ça montre que le salut n'est pas par les œuvres, mais seulement par la grâce de Dieu, et que la gloire ne revient qu'à Dieu aussi, et que le salut est pour toujours. Lorsque vous dites que Jésus, c'est lui qui vous permet d'avoir la foi, et que c'est lui qui finit votre foi, vous n'avez aucun sujet de vous glorifier en fait. C'est pour ça que le salut est gratuit. La gloire ne revient qu'à Dieu, parce qu'il va commencer ce qu'il a terminé. Et ça montre que le salut est pour toujours, parce que c'est Jésus-Christ qui va finir notre salut, et parce que Dieu est fidèle. Et donc si vous dites que vous pouvez perdre le salut, ça montre que vous n'avez pas confiance en Jésus-Christ, et vous n'avez pas confiance qu'il est le finisseur de votre foi. Et donc c'est important, nous ce qu'on peut en retenir en tant que personne sauvée, c'est de ne pas faire naufrage quant à la foi. C'est de continuer à persévérer, pas pour garder notre salut, pour essayer de persévérer jusqu'à la fin, comme certains l'enseignent, tous ces mensonges. Non, c'est pas pour ça. C'est pour plaire à Dieu, c'est pour avoir une bonne vie de chrétien, pour être récompensé par Dieu. Et ça, c'est la différence entre le salut et la vie chrétienne.